L'Exode, le deuxième livre écrit par Moïse, raconte la délivrance des Hébreux de l'esclavage suite aux 10 plaies d'Égypte. Lors du dernier de ses jugements, l'Éternel décima tous les aînés du pays, sauf ceux des Hébreux. En conséquence, ces derniers lui appartiennent pour le servir. C'est là qu'interviennent les Lévites dans le chapitre 3 du livre des Nombres. Le texte explique comment. Je continue la suite. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. « Voici, j'ai choisi les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des mères israélites. Ils m'appartiennent donc. Tout premier-né m'appartient en effet depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux. Ils sont à moi. Je suis l'Éternel. » Versets 11 à 13. Cette substitution des Lévites pour les Israélites permet de bien garder le souvenir de la préservation des premiers-nés hébreux lors de la 10e plaie d'Égypte qui avait décimé tous les aînés du pays. C'est la raison pour laquelle Dieu avait ordonné que tous les premiers-nés israélites et du bétail lui soient consacrés. Donc, aux premiers-nés des mères israélites, l'Éternel substitue la tribu de Lévi. Cette décision de Dieu est un soulagement pour les familles qui n'ont pas à envoyer leur fils aîné pour servir au tabernacle. C'est aussi un avantage pratique que d'avoir une tribu spécialisée dans le ministère cultuel. De plus, en choisissant Lévi, l'Éternel transformait en bénédiction la malédiction qu'avait prononcée Jacob sur son fils. En effet, ce dernier avait été maudit à cause du massacre d'une ville qu'il avait orchestrée avec son frère afin de venger leur sœur qui avait été violée par le fils du roi. Je lis l'imprécation de leur père Jacob. Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Car mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. » Fin de citation. Ça ne plaisantait pas à l'époque. Lévi avait très mal commencé, mais grâce à Dieu, ses descendants sont devenus des ouvriers de paix au service du tabernacle. Cette consécration des premiers-nés à Dieu est une des caractéristiques du peuple d'Israël qui ne se rencontre chez aucun autre peuple de l'Antiquité. Elle allait dans le même sens que les lois sur les prémices ou des premiers fruits et qui attribuait à Dieu les meilleurs produits du sol parce que c'était lui qui était la source de toute prospérité. Je continue le texte. Là-dessus, l'Éternel commanda à Moïse, au désert du Sinaï, « Fais le recensement des descendants de Lévi selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Tu compteras tous les Lévites de sexe masculin de l'âge d'un mois et plus. » Moïse fit ce recensement sur l'ordre de l'Éternel, de la manière qu'il lui avait prescrite. Voici les noms des fils de Lévi. Guershon, Kehath et Merari, versets 14 à 17. Un mois est l'âge à partir duquel les petits-enfants étaient considérés comme viables. Ce recensement sert à déterminer le rapport du nombre des premiers-nés des Lévites avec celui des 12 tribus. Lévi a eu 3 fils qui ont donné 3 maisons patriarcales ou 3 branches principales. La suite du texte indique le rôle de chaque clan. Je continue avec des versets épars ici et là. Dans la tente de la rencontre, les familles guershonites avaient la responsabilité du tabernacle et de la tenture qui le recouvrait, du rideau de l'entrée de la tente, des tentures du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel et de sa porte d'entrée ainsi que des cordages. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets. Versets 23 et 25. Les descendants de Gershon étaient chargés du démontage, remontage et transport de toutes les tentures qui constituaient le toit du tabernacle, avec les cordages ainsi que le pourtour, appelé le parvis, lui aussi en toile. Je continue. On avait confié aux descendants de Kehath la responsabilité du coffre, la table, le chandelier, les autels, les objets sacrés dont on se sert pour officier, et le voile. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il supervisait les Lévites préposés au service du sanctuaire. Versets 31 à 32. Éléazar, fils aîné d'Aaron et chef de la famille sacerdotale des prêtres, était le chef de toute la tribu des Lévites. Le voile, dont il est question, est ce qui séparait le lieu saint du sanctuaire du lieu très saint où résidait la gloire de l'Éternel. Les descendants de Kehath étaient chargés du transport des objets les plus sacrés, le coffre de l'Alliance et le couvercle, l'autel des parfums, le chandelier d'or, etc. Et ils étaient aussi chargés des fonctions les plus éminentes. Je continue avec le troisième clan. Les Mérarites étaient responsables des planches, du tabernacle, de ses traverses, de ses piliers, de leur socle et de tous les ustensiles pour accomplir tous les travaux relatifs à ces objets. Ils avaient aussi la charge des piliers autour du parvis avec leur socle, leur piquet et leur cordage. Versets 36 à 37. Les Mérarites avaient la responsabilité de transporter la structure, les piliers et tous les éléments de construction. On apprendra plus tard qu'il leur était assigné pour cela 4 voitures, des chariots en fait, tandis que les descendants de Gershon, moins chargés, n'en avaient que 2. Quant aux descendants de Kehath, ils devaient porter tous les meubles sacrés sur leurs épaules. Je continue. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est devant la tente de la rencontre. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Toute personne profane qui s'en serait approchée comme eux devait être mise à mort. Le nombre total des Lévites du sexe masculin d'un mois et plus, recensé par Moïse et Aaron sur l'ordre de l'Éternel et par famille, était de 22 000. Versets 38 à 39. Les 3 familles des Lévites campaient au nord, à l'ouest et au sud du sanctuaire. Le côté le plus honorable, celui de l'Orient, était occupé par Moïse et Aaron ainsi que les prêtres sacrificateurs qui se trouvaient ainsi placés entre la tribu de Juda et le tabernacle. Quelques tentes suffisaient pour les abriter et l'entrée du parvis qui menait au tabernacle demeurait ainsi largement ouverte à tous ceux qui venaient y offrir des sacrifices. Une vue aérienne du camp israélite aurait montré un rectangle au centre, c'est le tabernacle, puis un autre rectangle tout autour constitué par les tentes des descendants de Lévi, qu'ils soient prêtres ou aides au culte. Ensuite, et toujours en rectangle, sont disposées les 12 tribus. Il est aussi intéressant de noter en passant que les descendants de Lévi sont bien moins nombreux que les autres. Néanmoins, en un peu moins de 5 siècles, ils vont quadrupler tandis que les 12 tribus vont simplement doubler en nombre. Je continue le texte. L'Éternel dit à Moïse, « Fais à présent le recensement de tous les fils aînés parmi les Israélites depuis l'âge d'un mois et au-dessus, en dressant leur liste nominative. À leur place, tu m'attribueras les Lévites. Je suis l'Éternel. Le bétail des Lévites m'appartiendra aussi en échange de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Versets 40 à 41. De même que les Lévites sont consacrés à l'Éternel à la place des premiers-nés du peuple, ainsi en est-il de leur bétail. Toute la tribu de Lévi, avec leurs biens propres, appartiennent donc de droit à l'Éternel. Dans la pratique, cette ordonnance divine n'avait pas d'incidence directe sur la vie de tous les jours. C'est toute une éducation que Dieu fait à son peuple. Il communique qu'il est le Créateur. En conséquence, tout lui appartient, et en particulier les prémices, ce qu'il y a de mieux et de meilleur. La suite du texte, dont je vous fais grâce, répète ce que nous savons déjà, mais précise aussi qu'il y avait 273 premiers-nés israélites garçons de plus que chez les Lévites. Il s'ensuit que les 12 tribus doivent payer une taxe de 60 grammes d'argent par enfant supplémentaire pour couvrir ces 273 garçons excédentaires. Cet argent était versé aux prêtres et faisait partie de leurs revenus. Tout ce processus me paraît un peu étrange, mais si je garde à l'esprit que l'Éternel est engagé dans un vaste programme d'éducation d'Israël, alors je comprends mieux. Nous passons maintenant au chapitre 4 de ce livre des Nombres qui va définir les rôles des Lévites. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Fais le recensement des descendants de Kehath d'entre les fils de Lévi, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à celui de 50 ans, c'est-à-dire de tous ceux qui seront recrutés pour accomplir quelques tâches dans la tente de la rencontre. » Verset 1 à 3. Maintenant, l'Éternel ordonne à Moïse de faire le recensement, l'un après l'autre, des trois clans qui forment les Lévites, afin de déterminer ceux qui sont en âge de remplir leur ministère. Il commence avec les descendants de Kehath, dont les fonctions sont les plus éminentes. Les Lévites étaient en apprentissage à partir de l'âge de 25 ans et leur noviciat était terminé à 30 ans. Ce n'est qu'alors qu'ils étaient autorisés à transporter le tabernacle et ses meubles. Je continue. Voici quelle est la tâche des Kehathites dans la tente de la rencontre. Ils auront la responsabilité des objets très saints. Lorsqu'on lèvera le camp, Aaron et ses fils descendront le voile de séparation, ils en couvriront le coffre de l'acte de l'Alliance, puis ils mettront par-dessus une couverture de peau de dauphin sur laquelle ils étendront une étoffe entièrement teinte de pourpre violette. Ensuite, ils fixeront les barres servant à transporter le coffre. Quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, au moment du départ du camp, les Kehathites viendront pour les transporter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire car ils seraient mis à mort. Telle est la responsabilité des Kehathites concernant la tente de la rencontre. Versets 4 à 6 et 15. Ce sont ces gens qui transportent les objets les plus précieux et proches de la gloire de l'Éternel. Cependant, il leur est interdit de les toucher. Seuls les prêtres ont le droit de les envelopper avant de les confier aux Kehathites. Je continue. Quant à Éléazar, fils du prêtre Aaron, il sera responsable de l'huile du chandelier, de l'encens aromatique, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il assurera la supervision de tout le tabernacle, de tout ce qui s'y trouve, tant du sanctuaire que de ses accessoires. Verset 16. La plus grande rigueur était de mise. Éléazar est personnellement responsable du transport des matières sacrées employées pour le culte, telles que l'encens, l'huile pour le candélabre et l'huile d'onction. En outre, il est le maître de l'ouvrage. Il doit superviser le transport de tout le sanctuaire ainsi que des meubles. Je continue. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, n'exposait pas le groupe des familles des Kehathites à être retranché du milieu des Lévites. Voici la manière dont vous agirez à leur égard pour qu'ils vivent et ne soient pas frappés de mort lorsqu'ils s'approcheront des objets très saints. Toi, Aaron et tes fils, vous entrerez et vous assignerez à chacun sa tâche, lui indiqua ce qu'il devrait transporter. Ils ne doivent jamais entrer seuls pour regarder le sanctuaire, ne fût-ce qu'un instant, car ils mourraient. Versets 17 à 20. La défense précédente de toucher les objets très saints est précisée avec interdiction absolue de les entrevoir sous peine de mort. Les prêtres doivent être sur leur garde et éviter toute négligence qui attirerait un jugement divin immédiat. Cela nous paraît excessif comme punition parce qu'il nous est très difficile de concevoir la sainteté de Dieu. Ensuite, le texte donne la liste des objets que les descendants de Gershon devraient transporter et que j'ai déjà cités. Je continue un peu plus loin. Tel est le service des familles des Gershonites concernant la tente de la rencontre. Ils l'accompliront sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Verset 28. Les Gershonites, qui doivent transporter tout ce qui est fait de toile, sont sous la surveillance du second fils d'Aaron, de la même manière que les Kehathites sont sous celle d'Éléazar, le fils aîné. Les Mérarites qui ont à transporter la structure du tabernacle, soit des objets moins sacrés comme les planches, les traverses, les piliers, les socles, les cordages et les outils d'assemblage, travaillent eux aussi sous la direction du second fils d'Aaron, mais ne sont pas soumis à une inspection aussi rigoureuse. Plus loin, le texte donne les résultats du recensement des hommes âgés entre 30 et 50 ans, soit 8580 pour les trois clans. Je finis le chapitre 4. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse assigna à chacun le service qu'il devait accomplir et ce qu'il devait transporter comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 49. Ces chapitres 3 et 4 ont vu le recensement des Lévites, tout comme l'ont été les 12 tribus régulières précédemment. Les premiers furent organisés militairement en unités d'armée, tandis que les seconds le furent pour former le corps sacerdotal. L'impression d'ordre et d'harmonie que dégageaient les deux premiers chapitres se retrouve ici. Chaque famille, chaque clan se voit attribuer une place attitrée dans le campement et une fonction bien définie dans le tabernacle. Le respect des consignes émanant de l'Éternel lui-même apparaît d'autant plus vital qu'elles ont trait au service du Dieu d'Israël, véritable centre de la vie de ce peuple. Tout est maintenant prêt pour lever le camp. Mais comment cela se faisait-il? Moïse et Aaron ne choisissaient pas de convoquer une réunion extraordinaire avec les princes d'Israël pour décider s'ils devaient partir. C'est la colonne de nuée, située à la verticale de la tente de la rencontre, qui indiquait la course à prendre. Si elle s'élevait, ils savaient qu'ils devaient donner l'ordre de lever le camp. Dans le cas contraire, ils restaient sur place. Si c'était le moment du départ, Aaron et ses deux fils entraient dans le lieu saint du sanctuaire et enveloppaient le mobilier qui s'y trouvait, en particulier le chandelier d'or et l'autel des parfums. Pour ce qui était du mobilier derrière le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, les prêtres retiraient la tringle qui tenait le voile et celui-ci tombait alors sur le coffre de l'alliance et le couvercle propitiatoire. Puis ils les recouvraient encore avec des couvertures. Ensuite, les Kehathites pouvaient les transporter. Tous les meubles disposaient d'anneaux dans lesquels on pouvait passer une tringle. Les prêtres sacrificateurs portaient le coffre de l'Alliance et le couvercle à épaules d'homme. Ils prenaient la tête de toutes les tribus et attendaient que la colonne de nuée se place devant eux pour les guider. Alors commençait la marche, suivi par tout le peuple dans l'ordre que j'ai précédemment expliqué et qui sera à nouveau donné par la suite. Lorsque la nuée s'arrêtait, les prêtres sacrificateurs apportaient le coffre d'alliance qu'ils plaçaient juste en dessous et tout le camp s'organisait autour de cet emplacement qui allait devenir le siège de la gloire de Dieu. C'était en quelque sorte le centre vital de tout Israël. L'installation, comme le départ d'ailleurs, allait très vite. Les Kehathites disposaient tous les meubles en relation avec le coffre de l'Alliance. Ensuite, la structure du tabernacle était mise en place. En deux temps trois mouvements, pour ainsi dire, le sanctuaire était fonctionnel et chacun était sous sa tente. Quand j'étais enfant, j'étais toujours émerveillé quand le cirque s'installait dans le pré de notre commune. Les caravanes arrivaient en fin de soirée et ils mettaient les animaux en pâture. Le lendemain matin, toute une armée de gens commençait à s'affairer. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les camions étaient déchargés et l'immense chapiteau monté. Chacun connaissait bien sa tâche. Tout se faisait méthodiquement et automatiquement comme par magie. Les chaises, les bancs, les trapèzes, la cage au lion se mettaient en place presque tout seul, comme dans le dessin animé « L'apprenti sorcier » de Walt Disney. J'ai d'ailleurs la musique qui me trotte dans la tête. Ensuite, une camionnette munie d'un haut-parleur sillonnait les rues pour annoncer l'heure de la représentation. Elle avait généralement lieu un peu après la fin de l'école, vers les 17 heures. C'est un peu comme ça qu'avait lieu le démontage, transport et remontage du tabernacle. Mais au lieu d'emmener avec eux une simple tente, c'était la présence matérielle du Seigneur de l'univers.